Que le Seigneur soit béni. Vous croyez que c'est un privilège de connaître le Seigneur? Je voudrais faire deux lectures et on chantera la première strophe d'un vieux cantique, s'il vous plaît. Nous allons faire une lecture dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Que le Seigneur soit béni. Non seulement il a tout accompli sur le bois de la croix, mais que serions-nous devenus si nous n'avions pas sa parole? Vous y réfléchissez des fois? Qu'est-ce qu'on serait devenu si on n'avait pas la parole? Parce que quand même, on aurait été profondément ennuyé si on n'avait pas eu la parole de Dieu. Et je plains ceux qui ne savent pas lire ou ceux qui n'ont pas encore leur Bible traduite dans leur langue, même si le Saint-Esprit, bien sûr, doit pourvoir. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes. Inébranlable, retenez bien ces deux mots, soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 8. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Amen. Ce matin, nous allons parler du doute et de la foi. Mais j'aimerais chanter la première strophe d'un vieux cantique, s'il vous plaît. C'est le 392. Nous avons chanté ce cantique souvent. Je voudrais que vous chantiez ce cantique avec beaucoup de ferveur, pour que nous réalisions ce que nous chantons. Parfois, nous chantons des cantiques extrêmement profonds. Tous les cantiques que nous avons chantés ce matin indiquent beaucoup de choses. Mais hier soir, je cherchais un cantique quand je finissais de préparer ma prédication et je me suis endormi avec ce cantique et je me suis dit, on le chantera pour réaliser ce que Dieu veut que nous comprenions. Vous le connaissez, ce cantique? Qui ne le connaît pas? Bon. On le chante? On le chante. Mais réalisons ce que nous chantons, s'il vous plaît.
Celui qui est en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
Vous le croyez, ce que vous venez de chanter? Vous rendez compte, on pourrait terminer le culte. Vous ne croyez pas? Vous pouvez rentrer. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, pas une confiance aléatoire, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète et sa délivrance. Ce sont des paroles extraordinaires. On devrait parfois, je ne sais pas si vous le faites, mais moi c'est un frère de l'Assemblée qui m'a dit, ça il y a peut-être 10 ou 15 ans ici, il m'a dit, moi de temps en temps, je prends un cantique, je le chante et je le médite. Et je le fais depuis. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup appris de prendre des cantiques et de les lire ou de les chanter. C'est pour ça que, bon, nous on en a les cantiques là sur vidéoprojecteur, c'est bien, mais je pense que c'est bien de s'en procurer, de les avoir chez soi et de lire souvent des paroles comme celles que nous venons de chanter. Vous savez, rien que cette première strophe, elle indique le sujet donc, de la méditation de ce matin. Merci Ina, merci les musiciens. Le problème du doute. Vous avez vu ce texte que nous venons de lire, les deux textes nous parlent d'être fermes, d'être inébranlables. Ce texte nous parle des épreuves. Hélas, nous traversons des épreuves. Hélas, au premier abord, parce que nous avons besoin des épreuves que nous traversons. Vous le savez peut-être pas, ça vous plaît peut-être pas, ça ne nous plaît pas beaucoup, mais nous avons besoin d'épreuves. Vous le croyez cela? Ça vous plaît ce que je vous dis ou ça vous plaît pas? Il y a des petites épreuves, les petites épreuves, bon, ça va. Les petites épreuves, on est d'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Dieu sait exactement les épreuves que l'on doit traverser? Et beaucoup de chrétiens se démènent. Vous savez, j'ai eu le temps, pendant mon mi-temps, puisque je suis encore en mi-temps, j'ai beaucoup de temps, je passe pas mon temps à rien faire, je passe mon temps à réfléchir, à méditer, à étudier la parole de Dieu, vous le comprenez. Mais la seule chose, c'est que je fais moins de visites. Je réalise que beaucoup de chrétiens ne vivent pas ce que Dieu voudrait que nous vivions, c'est-à-dire ce que nous venons de chanter, une pleine confiance et vivre dans l'assurance. C'est quand même la volonté de Dieu. Cette semaine, une chrétienne, regardez, je le dis, elle n'est pas d'ici, mais qu'importe, qu'elle soit d'ici ou ailleurs, c'est pareil de toute façon. J'ai dit à cette sœur, mais est-ce que vous avez peur du lendemain? Elle me dit, oui, j'ai peur du lendemain. Est-ce que vous avez des angoisses et des malaises? Oui, je suis toujours dans la crainte. Et c'est une chrétienne. Il y a un problème qui est certainement lié au fait de douter. Cette sœur m'a appelé, je voyais dans ses propos combien elle aime le Seigneur. Mais voilà, le problème ce n'est pas d'aimer, c'est comme une femme, c'est bien qu'elle aime son mari. Mais je pense que c'est encore mieux qu'elle l'aime et qu'elle lui fasse confiance. Parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on peut aimer quelqu'un si on ne lui fait pas confiance. On y reviendra si on a le temps sur les relations humaines. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette foi que Dieu voudrait qu'ils aient. Alors le diable, bien sûr, il met ses coups des franches pour faire en sorte que les chrétiens vivent continuellement dans le mal-être, dans le malaise, dans le trouble, dans la crainte, parce que le témoignage est des plus lamentables lorsqu'un chrétien vit dans ces conditions. Vous le comprenez bien. Même si Dieu l'aime de la même manière, même si Dieu le protège, même si Dieu le garde, il n'empêche que le témoignage est des plus lamentables. Et vous en avez souffert, vous avez peut-être même souffert de votre propre témoignage, de ce que parfois vous n'avez pas été, entre guillemets, à la hauteur. Combien de fois on a pu souffrir parce que notre témoignage n'était pas celui que nous aurions dû rendre? C'est vrai ou c'est pas vrai? On en a souffert, bon, ça se corrige, et c'est le but de cette prédication. Mais Jacques, l'apôtre, on vient de le lire, est en train de décrire exactement ce qui se passe lorsque l'on doute. Alors c'est vrai qu'il faudrait faire une grande différence entre l'incrédulité et le doute. L'incrédulité, c'est un choix, c'est-à-dire que je choisis de ne pas croire. C'est très 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 arrangeant, parce que ça règle le problème du péché, ça le règle provisoirement, ça le règle temporairement sur la terre. Il y a des gens qui ont choisi d'être incrédules. Si nous sommes là ce matin, c'est peut-être que vous étiez avant incrédule. Peut-être que vous pourriez dire, mais moi avant je ne croyais pas, ou je ne voulais pas croire. L'incrédulité, c'est un choix. D'ailleurs, l'Apocalypse dit, mais pour les lâches, les abominables, tous les menteurs, les incrédules, leur part sera dans les temps ardents et de feu. Vous comprenez bien que Dieu n'a pas créé des gens qui croient et des gens qui vivent dans l'incrédulité. Ce sont des choix que nous faisons. Nous faisons le choix de croire, nous faisons le choix d'être un incrédule. Ne pensez pas que Dieu fait n'importe quoi. Il nous a donné le libre arbitre, c'est à nous de choisir. Le doute est un problème, l'incrédulité c'est un choix, je ne veux pas croire. Le doute, c'est je crois en Dieu, mais je doute de sa parole. Il a dit, oui, mais je pense que. Et là, ça, on a affaire à un gros problème. Et beaucoup de chrétiens, excusez-moi l'expression, mais se traînent dans la défaite, vivent mal leur foi uniquement parce qu'ils doutent. Vous avez vu ce texte, c'est vrai que ce texte est conjugué avec l'épreuve, parce que l'épreuve, il faut l'accepter. L'épreuve, vous en aurez. On en aura tout le temps. C'est parce que Dieu nous aime qu'on aura des épreuves. Ça vous convient ce que je vous dis? Est-ce que ça vous convient vraiment? Est-ce que nous avons besoin de bénédictions? Les parents sérieux, est-ce qu'il y a des parents sérieux ici? Les parents sérieux, vous avez qui ont eu des enfants. Vous avez béni vos enfants, vous les avez comblés, vous les avez gâtés. Est-ce que vous aimez gâter vos enfants? Pourquoi vous les gâtez? Parce que vous les aimez. Pourquoi vous les corrigez? Donc, vous les éprouvez. Parce qu'une correction,
C'est une épreuve. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Mais je pense pas. Le problème, c'est quand les corrections sont injustes au niveau des hommes. Parce que nos parents, les parents peuvent parfois provoquer des punitions de manière injuste. Mais par contre, quand Dieu nous éprouve, ça ne peut pas être injuste. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas tout mélanger quand même. Mais on comprend bien avec les relations humaines. Ce texte que nous venons de lire, nous parle de celui qui doute. Celui qui doute, on l'a lu, est agité. Donc, il ne peut pas avoir la paix. Vous l'avez lu avec moi, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce texte, je viens de le dire, nous parle des épreuves et des doutes. C'est pour ça qu'il est dit au milieu, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce qu'on a besoin de sagesse pour comprendre tous les combats que l'on a à l'intérieur et toutes les épreuves que l'on traverse. Parce que les épreuves, on en parle régulièrement, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce qu'on a parfois le jugement des autres quand on est éprouvé. Est-ce que ce n'est pas vrai? Alors que le texte dit, réjouissez-vous de vos épreuves. Est-ce que vous vous réjouissez de vos épreuves? Ou est-ce que vous vous réjouissez des épreuves des autres? On a vite fait parfois de se laisser aller. Est-ce que ça nous est jamais arrivé? Allez, on va fermer les yeux tous. On va répondre. Est-ce que ça, c'est pas bien ce que je vais dire, mais quand même. Des fois, on a dit, tiens, ça lui arrive, c'est bien fait pour lui. Vous l'avez jamais dit, ça? Est-ce que vous l'avez déjà dit? Est-ce que vous l'avez pensé? Des fois, soyons honnêtes. Des fois, on a dit, mais c'est pas forcément malsain. Mais moi, je crois qu'on n'est pas habilité, personne n'est habilité de juger l'épreuve que traverse quelqu'un. Je le crois vraiment. Par contre, on devrait dire, voilà, je traverse telle épreuve, bon, je l'accepte parce que Seigneur, si tu permets que je traverse une épreuve, je ne parle pas des épreuves qui sont la conséquence de nos péchés. Là, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des épreuves qui nous tombent dessus parce que c'est le cours de la vie, mais il y a des épreuves qui sont le résultat direct de ce que nous avons péché. Vous comprenez? Alors ça, c'est quand même autre chose. Mais nos épreuves, celles que Dieu permet, nous devrions toutes dire, bon, je les accepte. Ça ne me plaît pas beaucoup, Seigneur, mais je sais que je suis en train d'apprendre quelque chose. Il y a le doute. Le doute, c'est autre chose. Les épreuves, on ne les commande pas, mais le doute, on a quand même la possibilité d'avoir la victoire sur le doute. Vous comprenez? Les épreuves, vous ne pourrez rien y faire, parce que de toute façon, Dieu les permettra. Mais le doute, nous devrions tous être sérieux par rapport à ce que Dieu dit. Les épreuves, elles viennent, mais les doutes viennent justement de ce manque de foi. Et c'est là qu'il y a de la crainte, des malaises. Vous savez, moi, quand j'entends un chrétien qui a plusieurs années de conversion, les premiers mois, je comprends, il y a tellement de choses à se débarrasser pour acquérir les nouvelles choses. Il faut se dépouiller, il faut se revêtir, etc. Les premiers temps, il y a quand même un combat singulier. Mais au bout de quelques années, quelques mois, quelques années, allons, soyons patients, il devrait y avoir cette victoire, comme le Seigneur nous l'indique, comme on vient de le chanter, par la foi je marcherai. Par la foi, je triompherai, par la foi, c'est-à-dire par la confiance en Dieu. Vous savez que j'ai commencé depuis le mois de décembre plusieurs exhortations sur le repos. Mais quand quelqu'un doute, quand vous voyez quelqu'un qui a 3 ans, 5 ans de conversion, qui vous dit un jour, « Ah ben moi je crois à l'amour de Dieu, oui je crois à l'amour de Dieu », vous le revoyez la semaine d'après. Et il vous dit, « Ah ben oui, Dieu doit aimer les gens, mais moi je ne sais pas si Dieu m'aime ». Vous savez, je l'entends ça. Une femme de pasteur, dernièrement, je ne le dis pas, mais c'est pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur nous a confié, doutait de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Son mari me disait, mais je ne sais plus quoi faire. Ma femme est continuellement en train de douter de l'amour de Dieu. Parce qu'elle a eu quelques épreuves qui, pour elle, ne pouvaient pas être conciliables avec l'amour de Dieu. Et il y a des personnes, par exemple, je vais prendre un exemple. Une femme est stérile. Est-ce que ça peut arriver que Dieu permette qu'une femme soit stérile? Bon. Il y a des femmes qui n'ont pas accepté le fait qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et elles ont considéré cela comme une malédiction. Est-ce que vous le savez? Est-ce que Dieu sait exactement si on doit avoir un enfant ou pas? Moi, je crois que Dieu est bon. Je ne pense pas que Dieu veuille faire souffrir une femme. Il y a peut-être une femme ici qui se trouvent dans cette situation. Et vous ne vous aimez pas, et vous pensez que Dieu ne vous aime pas, parce que vous n'avez pas eu encore d'enfant. Eh bien, moi, je vous dis que c'est une erreur que vous faites. Dieu sait. Si Dieu veut vous donner un enfant, ne vous inquiétez pas, il vous le donnera. Vous le croyez, ça, que Dieu est assez puissant? Et voyez, ça commence avec... C'est un exemple, je pourrais en prendre des dizaines. Mais ça commence comme ça, et on finit par douter de l'amour de Dieu. Alors après, une prédication comme celle-ci, ah, c'est vrai quand même, bon, ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, je le crois. Alors vous allez sortir, et vous allez, oui, je crois à l'amour de Dieu, je sais que Dieu m'aime. Oui, moi, je pensais que si je n'ai pas eu ça, Dieu ne m'aimait pas. Non, je sais que Dieu sait ce qu'il doit me donner. Mais demain, est-ce que vous douterez? Et je crois que Dieu veut qu'on règle ce problème. Je sais que nous vivons des temps difficiles, mais justement, parce que nous vivons des temps difficiles, combien il est important d'avoir une foi saine. Car celui qui doute, en plus, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et celui qui doute, en fin de compte, ne vit plus par la foi. Bon, mais ça, la palisse l'aurait dit. Mais celui qui doute, en vérité, il est tout le temps bousculé par ses émotions, par ses ressentis, par ses pressentis, par les influences, même par le temps qu'il fait. Dans le monde, les gens sont influencés énormément par le temps. Les gens étaient déprimés parce qu'il faisait mauvais. Est-ce que vous étiez déprimé parce qu'il a fait mauvais pendant plusieurs semaines? Mais c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que vous étiez en dépression parce que vous n'avez pas vu le soleil briller? Je pense qu'il y a un soleil ailleurs qui brille dans notre cœur. Bien sûr qu'on apprécie le soleil. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quel témoignage! Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis peiné lorsque je vois des chrétiens qui rendent un mauvais témoignage. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir une mauvaise parole. Mais on peut se rattraper et dire « Je te demande pardon, je t'ai dit ça, je suis vraiment au regret, je te demande pardon. » Bon, là, le témoignage est rétabli. Mais il y a quand même des gens qui rendent un mauvais témoignage. Et ça, quand même, on devrait, dans une église, régler cette affaire. Car on ne glorifie pas le Seigneur, mais bien au contraire, on glorifie Satan. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais moi, je peux vous dire que quand on vit tout le temps dans le doute, qu'on ne s'imagine pas, un, qu'on recevra quelque chose, et deux, on est tout le temps agité, et les gens agités, je suis désolé, mais ils ne procurent pas la paix aux autres. Douter, c'est en plus mettre en doute la fidélité du Seigneur. Vous pouvez le traduire comme vous le voulez, mais quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui remet en question la parole de Dieu. Donc, il remet en question l'amour de Dieu, la fidélité et tout ce que vous voudrez. Dieu veut que vous ayez de l'assurance. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit? Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Ni les épreuves, ni ceci, ni la maladie, ni la mort, ni la vie, ni les puissants des ténèbres, ni les démons, etc. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. J'ai l'assurance. Il avait l'assurance parce qu'il était fort? Non. Justement, il était souvent très faible. Mais il ne dépendait pas de lui. Il dépendait de ses propres forces. La base de notre assurance ne provient pas de ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Merci Jérémy. La base de notre assurance ne provient pas de ce que nous sommes, mais de ce que Dieu est. Je reprends l'exemple de l'amour. Est-ce que nous pouvons dire, mais Dieu m'aime, parce que je suis bon? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce qu'on peut dire, Dieu m'aime parce que je suis bon? Ou est-ce qu'on peut dire, Dieu m'aime parce qu'il a dit qu'il nous aimait? Il l'a dit, il l'a promis, c'est indiscutable. Est-ce que Dieu vous aime? Vous le croyez vraiment que Dieu vous aime? Même s'il ne vous a pas donné tout ce que vous demandiez, est-ce qu'il vous aime quand même? Ce sont les enfants ingrats. Ah, tu ne me donnes pas ça. Tu ne m'aimes pas. Vous savez, on en a eu des gosses. Hein? Tu ne me donnes pas ce que je te demande. Eh bien, papa, j'ai la preuve que tu ne m'aimes pas. Hein? Ils vous ont jamais fait le coup, les enfants? Ils vous ont jamais fait ça, les gosses? Ouais. J'ai dit, mais c'est exactement l'inverse. Tu m'as mis une fessée. Mais c'est parce que tu ne m'aimes pas. Je me souviens, mon fils Lucas qui avait dit, mais pourquoi tu m'as mis une fessée à sa mère? Pourquoi tu m'as mis une fessée? Mais parce que je t'aime. Oh maman, je te demande de m'aimer un peu moins, s'il te plaît. Bon, ça... Mais les enfants, ils sont forts. Hein. Et c'est vrai ça. C'est une histoire. Il n'est pas là. Il vient cet après-midi. Il fait chanter cet après-midi. Mais... C'est important de savoir, de ne pas douter de ces choses-là. Vous vous rendez compte si dans un couple, On était tout le temps en train de douter de ce que l'autre nous aime, de ce qu'on a confiance ou pas. Dans le... Vous rendez compte, dans un... Et quoi que dans un couple, ça peut arriver. Parce que dans un couple, il peut y avoir quelqu'un qui justement n'accomplit pas ses devoirs. Dans un couple, ça peut arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Mais imaginons dans un couple normal qu'une femme, un mari, soit tout le temps en train de douter de l'amour de son mari, de la confiance. Mais vous vous rendez compte, c'est invivable. C'est une chose, moi je ne le supporterais pas si ma femme mettait tout le temps, mais est-ce que tu t'en vas souvent, est-ce que je n'ai pas confiance? Moi je suis heureux de voir que ma femme a confiance en moi et je pense, je sais que c'est réciproque. Mes frères et sœurs, dans le monde avec les amis, je ne sais pas si on le supporterait longtemps. Et comment cela se fait-il que les chrétiens s'autorisent à avoir cette attitude envers Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte? On n'a pas le droit d'avoir cette attitude envers le Seigneur. Un jour on croit, un jour on croit moins, un jour on croit qu'il nous aime, un jour on croit qu'il ne nous aime pas. C'est quoi ça? Quelqu'un un jour a dit, oh c'est de l'humilité, vous savez, moi je pense que si Dieu ne m'aime pas, c'est normal. C'est de l'humilité? Non mais quelqu'un l'a dit, ici quelqu'un m'a dit. Est-ce que c'est de l'humilité? Dire Dieu, vous voyez? Mais il y a des gens qui se convainquent que si Dieu ne les aime pas, c'est une forme d'humilité. Moi, je suis désolé, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité consiste à croire ce que Dieu dit. Moi, je le vois comme ça. L'humilité, ça ne peut pas être autrement. D'ailleurs, Dieu fait grâce aux humbles. Et à cette catégorie de gens qui vont dire, « Oh, mais moi, qui sais que qui je suis pour que Dieu m'aime, qui je suis pour que Dieu s'intéresse à moi ?» Eh bien, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'humilité, c'est simplement du doute. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui critique le Seigneur tout le temps? Qui critique le caractère de Dieu? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez quoi? Oh, il n'est pas fidèle. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Mais qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on doute? Lorsqu'on doute, c'est comme si on critiquait Dieu. Vous pouvez le calculer comme vous voudrez. Là, moi, je vous le fais comme on dit en raccourci. Mais réfléchissez-y, c'est exactement ce qui se passe. Quand on dit, oui, je ne sais pas si Dieu m'aime, eh bien, en fait, on est en train de critiquer le Seigneur. Parce qu'il l'a dit et il l'a surtout prouvé. Parce que nous, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais Dieu l'a prouvé au calvaire, combien il nous aimait. Vous comprenez? Je comprends pourquoi il est dit que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Parce que l'humilité accepte. Dieu dit qu'il m'aime, alors je le sais et je le crois. Je suis peut-être pas toujours aimable, je suis peut-être pas toujours bien, je commets des erreurs, mais je vous dis que Dieu vous aime. Oui, rappelez-vous bien cela. L'humilité accepte ce que Dieu dit. L'humilité accepte le pardon. Pourquoi des gens rétrogradés? Ils étaient meilleurs que nous? Non. À un moment donné, ils ont commis un péché, ou d'autres, ou plusieurs. Ça s'est accéléré, et ils n'ont plus cru au pardon de Dieu. Judas n'avait pas beaucoup de communion avec Dieu. Ça s'est traduit que lorsqu'il a vendu le Fils de Dieu, eh bien, il n'a plus cru au pardon. Est-ce qu'il aurait pu courir au calvaire et demander pardon au Seigneur? Est-ce que Judas, plutôt que d'aller se pendre, aurait pu aller au calvaire et demander pardon? Est-ce que d'après vous, Jésus l'aurait pardonné? Mais bien sûr. Il l'aurait pardonné. Il n'a plus cru au pardon. Et le doute, c'est ça. Ben, l'incrédulité, c'est un choix. Mais ça commence comme ça. Oh, je ne sais pas si Dieu me pardonne. Ça fait... Bien sûr, si vous vivez volontairement dans le péché, là, il y a un autre problème à régler. Parce que la Bible parle de ceux qui vivent volontairement dans le péché. D'ailleurs, on va le lire. Parce qu'il faut quand même faire la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux à ce niveau. Ça nous arrive à tous de pécher. Tous. Nous péchons tous. Hélas, nous devons le dire. Même presque régulièrement. Mais quand même, quelle différence entre un péché que l'on commet involontairement et le péché volontaire? Regardez, Hébreux 10, verset 26. Ce sont des paroles très, très, très sévères qui sont presque en opposition avec tout ce que je suis en train de dire. Mais elles sont adressées, s'il y en avait parmi nous, à ceux qui vivent volontairement dans le péché. Car, Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement, vous avez vu la différence avec ce qu'on va lire tout à l'heure, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de la grâce? Voyez, mes frères et sœurs, il y a le péché involontaire et il y a le péché volontaire. Quelqu'un qui ment une fois, est-ce que c'est un menteur? Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui pratique, la Bible dit que ceux qui iront en enfer, ce sont ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. On va le lire, parce que je crois que beaucoup de chrétiens se bagarrent dans le doute parce qu'ils ne lisent pas suffisamment la parole de Dieu. Je le pardonne, ce petit, quand même. Regardez, à la fin, que je ne me trompe pas, quand il est dit « ceux qui aiment le mensonge ». Alors, regardez, Apocalypse 22, 15, c'est le dernier, avertissement. Apocalypse 22, 15, il faut bien lire les choses. Et attention, ne me faites pas dire que ce que j'ai pas dit, que de temps en temps, on pouvait s'autoriser à faire un mensonge. C'est pas ça que j'ai dit. Mais regardez, dehors les chiens, Apocalypse 22, 15, les magiciens, les chiens, ce sont ceux qui retournent à ceux qu'ils ont vomi. Il y a une dame qui s'est convertie il y a quelques années et qui m'a dit « Monsieur Gou, est-ce qu'il faut que je me débarrasse de mon chien ?» Et pourquoi ? Elle me dit « Parce que j'ai lu dans l'Apocalypse, dehors les chiens. » Mais elle prenait tout au premier degré. C'est vrai ça, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, il y a une différence entre commettre un mensonge qu'on va régler, que l'on va régler. Moi je vous l'avoue, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois de mentir à mon épouse. C'est des bricoles, si je vous dis, c'est des bricoles de bricoles. Mais je l'ai réparé. Est-ce que je suis un menteur pour autant? Non. Non. Mais il y a une différence entre celui qui aime et pratique le mensonge parce que ça lui rend service. Il croit que ça lui rend service. Est-ce que vous comprenez la différence? Il faut bien faire la différence entre le péché volontaire, et il y a des chrétiens qui vivent volontairement dans le péché. Et qui vont prendre le texte, on va le lire par exemple dans 1 Jean, parce qu'on mélange souvent les... Parce qu'on ne lit que les textes qui nous intéressent. Donc vous voyez, ce n'est pas sérieux ça. Il y a des chrétiens par exemple, le verset qu'on vient de lire, ils ne le connaissent pas. Par contre, celui qu'on va lire maintenant, ils le connaissent très bien. 1 Jean chapitre 1er, où il est dit, 1 Jean chapitre 1er, verset 7, la fin du verset 7, regardez avec moi. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. La fin du verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors ça, je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui connaissent ce verset par cœur. Est-ce que c'est vrai que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Oui, pour ceux qui vivent dans la communion. Regardez le contexte. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, virgule, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Péché. Voyez mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un vit dans l'obéissance, lorsque quelqu'un vit dans la communion avec Dieu, lorsque quelqu'un vit dans la foi, eh bien il va commettre un péché. D'ailleurs lisez la suite au verset 8, voyez, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Un jour il y a un pasteur qui a posé la question dans une église, est-ce que quelqu'un a jamais péché? Et il y a une femme qui avait la main. Elle dit, écoutez, c'est peut-être le premier mensonge que vous faites. Il a tourné ça comme ça, mais c'est sûr. Vous voyez, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, bon, il se séduit lui-même et la vérité n'est pas en lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Voyez la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire. Le péché involontaire, ça, le péché volontaire, ça nous amènera au jugement de Dieu. Ne nous leurrons pas. Vous savez qu'il y a l'enseignement sur la sécurité éternelle qui circule dans des églises et même dans certaines de nos assemblées, où on entend de plus en plus dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Écoutez, quelqu'un qui a lu la Bible a de suite compris qu'un chrétien, il peut perdre le salut. s'il se remet à vivre volontairement dans le péché. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous commettez un péché de temps en temps, ça ne veut pas dire, ça ne vous autorise pas à le faire, que vous n'obtiendrez pas le pardon. Si on a commis un péché, si je mens à M. Puette, je vais voir M. Puette, je lui dis, voilà, écoutez, je vous ai menti, je vous demande pardon, est-ce que vous me pardonnez? Et l'affaire, elle est réglée. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Et si nous étions humbles, parce que l'humilité, c'est quoi? C'est tout simplement, j'accepte ce que Dieu dit. Dieu parle, Dieu me dit qu'il m'aime, j'accepte son amour. Avec beaucoup de reconnaissance. Seigneur, tu me pardonnes. Tu me choisis. Combien on est de chrétiens rassemblés à Toulouse aujourd'hui? Dans les églises différentes, combien on est? Vous ne vous sentez pas privilégié quand même? Sérieusement, mes frères et sœurs, réfléchissez. Il y a 1 million d'habitants dans le Grand Toulouse. Combien de chrétiens sont assemblés à l'heure où je suis en train de vous parler, à une heure près? Combien de chrétiens sont assemblés au minime, à Toulouse-Ouest, à Villemur, à Muret, etc.? Combien de chrétiens sont rassemblés? Sur 1 million d'habitants, est-ce que vous ne vous sentez pas privilégié? Vous ne vous sentez pas privilégié? Moi, je vous assure, pour moi, c'est un privilège d'être dans une assemblée avec des frères, avec des sœurs, quand je sais que des multitudes sont en train de vivre dans le désarroi, dans le désespoir, des couples sont en train de se déchirer, peut-être l'inceste est commis dans telle maison, etc. Vous connaissez toutes ces choses. Et nous, nous sommes là, dans la présence de Dieu, à écouter la parole de Dieu qui devrait nous amener à vivre dans la victoire. Mes frères et sœurs, nous devons vivre dans la victoire. Comme dit Hébreux 3,14, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Vous avez de l'assurance? Vous aviez de l'assurance au commencement? Heureusement qu'il n'est pas là. Est-ce que vous aviez de l'assurance au commencement? Est-ce que vous aviez de l'assurance? Cette assurance, Dieu veut que vous l'ayez. Comment vous pouvez avoir cette assurance? Eh bien, ne vivant pas dans le doute. Christ dit, retenez fermement. L'assurance fermement, ben, c'est le contraire de douter. Certains chrétiens sont toujours fermes, pleins d'assurance, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes épreuves à quelque chose de près, mais ils vivent dans l'assurance. Pourquoi? Parce que dans les épreuves, dans les moments difficiles, eh ben, ils ne doutent pas. Dieu a dit qu'il me garderait, moi je crois que Dieu me gardera. Vous le croyez que Dieu vous gardera? Il l'a dit, je te garderai. Je te garderai dans ta vieillesse. C'est écrit ça? Dans ta vieillesse, je te garderai. Est-ce que c'est écrit? Bien sûr que c'est écrit. Et quand le doute s'installe, quand le doute est accepté, il ne faut pas s'étonner que la foi vacille. Et il ne faut pas penser que quelqu'un qui doute va être dans la victoire. C'est complètement incompatible. Ne dites pas à quelqu'un qui doute, bon, mais choisis la victoire. Non, il ne faut pas qu'il choisisse la victoire. Il faut qu'il choisisse de ne plus douter. Il y a une loi qui circule dans toute la Bible. Il vous sera fait selon votre foi. C'est une loi immuable. Vous ne pouvez pas la changer. C'est une loi irrévocable. Il vous sera fait selon votre foi. Le juste vivra par la foi. Vous ne pouvez pas contourner cette voie. Nous devons vivre par la foi, c'est-à-dire par la confiance. Et l'inverse est vrai. Si vous ne voulez pas vivre selon la foi, vous vivrez selon le doute. Vous vivrez selon le découragement. Il y a des chrétiens qui sont toujours découragés. On pourrait dire, sans se tromper, autant il vous sera fait selon votre foi, autant il vous sera fait selon votre découragement. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est écrit dans Job. Les épreuves, les échecs, les difficultés, les problèmes, on en a tous. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, vous savez, ces personnes qui m'ont dit, lorsque j'étais en rétablissement par rapport à mon AVC, ces personnes qui m'ont dit, ah, monsieur Gault, mais Dieu vous aime, vous vivrez. Et j'ai répondu à ces personnes, mais si Dieu m'avait repris, ça veut dire qu'il ne m'aimait pas. Vous voyez comme on est bête. C'est ridicule. Oui, non. Est-ce quand Dieu reprend quelqu'un, alors est-ce qu'il l'aime moins? À quelqu'un qui vit plus longtemps, il l'aime plus? Vous voyez, ça, c'est sentimental. C'était gentil de me dire, mais vous vivrez, vous en sortirez, tout ça. Bon, je comprenais bien que c'était affectueux. Mais moi, j'étais un peu, je dis, mais si Dieu me reprend, je sais qu'il m'aime pareil. Mais voyez comment on est capable de tordre la vérité. Et c'est comme ça qu'on insinue le doute dans le cœur des gens. Dieu est souverain, s'il avait voulu me reprendre, eh bien, il me reprenait, ça ne changeait rien du tout. Que je vive, que je meure, qu'on vive. Que l'on meure, que Dieu nous garde, mais c'est très bien. Que Dieu nous reprenne, mais c'est très bien aussi. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous pensez que Dieu sait exactement le nombre des pas que vous ferez sur la terre? Est-ce que c'est écrit ? Tu comptes les pas de ma vie errante. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous savez, vous, le dernier pas où vous le ferez ? Eh bien, Dieu le sait. Dieu pourrait vous dire, tiens, tu seras là, sur tel trottoir, tiens, dans ton lit, ou ici, ou là-bas, ou ailleurs. Dieu pourrait vous le dire. Il est souverain. Et nous ne devons pas vivre dans le doute. Premièrement, parce que nous nous imposons beaucoup de souffrances. Et deuxièmement, parce que nous rendons un mauvais témoignage. Et ça bloque notre communion avec le Seigneur, qu'on le veuille ou non. Dieu nous aime toujours, Dieu nous pardonne toujours, etc. Du côté de Dieu, ça ne change rien. Mais de notre côté à nous, ça change absolument tout. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est écrit, mes frères et sœurs. Regardez, quand il est dit, on va le lire, Hébreux 3, 18 et 19. C'est bien qu'on comprenne ces choses. Il y a des versets qu'on ne comprend pas. Il y a des versets qu'on ne comprend pas parce que c'est dit d'une manière excessive. Quand il est dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Vous l'avez lu ce texte ? Est-ce que Dieu peut avoir de la haine contre quelqu'un ? Mais c'est pour mettre en opposition les deux versets. Ça veut dire « J'ai aimé profondément Jacob et j'ai désapprouvé Ésaü ». C'est ça que ça veut dire. Je l'ai désapprouvé parce qu'il a fait des choix qui m'ont éloigné de lui. Mais vous comprenez bien que Dieu l'aimait toujours. Mais c'est pour marquer sa désapprobation. Par exemple, Hébreux 3, 18. Regardez. Qu'est-ce qui est écrit ? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas pu obtenir le repos, le lait, le miel. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans l'incrédulité. Ce doute qu'ils ont émis s'est transformé en incrédulité. Parce que le doute, ce n'est pas méchant en soi. Vous avez perdu vos clés. Oh, je doute. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez perdu les clés ? Vous les recherchez. Le doute vous pousse à la recherche, normalement. Quelqu'un qui commence à douter, vous dire, mais qu'est-ce que Dieu dit ? Je vais chercher dans la Bible ce que Dieu dit. Et quand vous cherchez, Dieu vous donne des réponses. Je me souviens, j'étais jeune pasteur, il y avait quoi ? Un an que j'étais reconnu pasteur, il y avait donc 7 ans que j'étais pasteur. Et je vais faire une visite dans une ferme, il y avait une femme qui avait le cancer. C'était une ambiance de ténèbres, mais de ténèbres. Vous savez, parfois on les perçoit les ténèbres. Et je discute avec cette femme, et j'ai prié pour elle, elle était vraiment en phase terminale. Et quand je partais, son papa rentre, un homme rempli de ténèbres. Crampé, couvert de ténèbres. Ça se percevait tellement c'était grave. Et il me dit, vous pouvez prier pour moi ? Ben, j'ai dit oui. Et quand je prie pour lui, il me dit, imposez-moi les mains. J'impose les mains, et quand j'impose les mains, j'ai perçu toutes ces ténèbres qui étaient sur lui. Mais j'ai dit, écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Il me dit, je suis agriculteur. Ah bon ? Vous êtes agriculteur ? Et la fille, qui était à côté, dis-y, papa, dis-y ce que tu fais. Dis-toi, toi, je suis agriculteur. Dis-lui que tu es un sorcier. Alors j'ai dit, monsieur, cette prière que j'ai faite, elle ne sera pas exaucée tant que vous ne demanderez pas pardon pour vos péchés, tout ce que vous avez fait. Je travaille pour Dieu, vous savez très bien pour qui vous travaillez. Et quand je suis rentré à la maison, la fille m'a téléphoné. Elle m'a dit, monsieur Go, mon père c'est un sorcier. Et tous les gens dont il m'a dit qu'il les tuerait, ils sont morts. Et il m'a dit qu'il allait vous tuer. Donc j'ai dit, écoutez, moi je crois que Dieu peut me reprendre, mais pas comme ça. Et j'avais lu le matin, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je l'avais lu, Proverbe 26, verset 2, si je ne me trompe pas. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et je me rappelle, j'ai dit, écoutez, ça m'étonnerait que Dieu me reprenne. S'il veut me reprendre, je me rappelle. Voilà. Et je me rappelle, j'ai raccroché, je n'ai même plus pensé. Et 2 mois après, on m'a téléphoné pour me dire, monsieur Go, ce sorcier, il est mort. Et je crois que, franchement, Dieu l'a repris. Mais j'ai même plus pensé. Pourquoi ? Mais parce que je n'ai pas douté, parce que la Bible est catégorique. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce n'est pas parce que c'était moi, mais parce que je l'ai lu. Et quand vous lisez quelque chose, c'est pas ce que vous pensez. Je ne sais même pas si j'en ai parlé à ma femme. Peut-être que j'en ai parlé. Je sais, mais ça ne m'a pas du tout travaillé. Pourquoi ? Parce que je sais, nous devons savoir que notre vie est entre les mains de Dieu. Vous le croyez, mes frères et sœurs ? C'est ça qui est important. Et moi, je vois des gens... Hier, avec mon épouse, on a vu un chrétien superstitieux. Ça fait mal au cœur. Un chrétien superstitieux. C'est dommage. Franchement, quel témoignage ! Si ce chrétien, il parle avec des gens et qu'il expose sa superstition, mais quel témoignage ! On n'a pas à être superstitieux. Il y a des chrétiens qui passent sous une échelle parce qu'un triangle, ça porte... Ça fait peine, vraiment. Moi, je me demande ce que certains chrétiens ont compris, vraiment. Je me demande si les chrétiens lisent la Bible. Mes frères et sœurs, Un chrétien n'a pas douté. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce que Dieu a dit, c'est important. Mais nous, on est presque plus fort que Dieu. Eh oui, Dieu l'a dit, mais moi, je pense que, mais moi, je crois que. Écoutez, mais c'est de l'orgueil, ni plus ni moins, que de se mettre au-dessus de la parole de Dieu. Si Dieu dit qu'il vous protégera au jour du malheur, il vous protégera au jour du malheur. Et si Dieu permet que vous traversiez un malheur, eh bien, vous traverserez un malheur. Mais dans le malheur, Dieu vous gardera. Est-ce que vous croyez ça? Mais c'est flagrant. Et les gens sont plus influencés par ce qu'ils pensent que par ce que Dieu dit. C'est comme s'il était écrit dans la Bible, « Il vous sera fait selon votre foi et selon vos émotions. Il vous sera fait selon votre foi et selon votre ferveur. » Ça fait que des gens, s'ils n'ont pas de ferveur, oh, ils sont découragés. Est-ce que ça peut arriver pendant un moment d'avoir un coup de blues et est-ce que ça peut arriver de manquer de ferveur? Ça vous est déjà arrivé de manquer de ferveur? Bon, est-ce que ça y est, il faut tout remettre en question? Parce que je n'ai pas de ferveur? Il n'est pas écrit, il vous sera fait selon votre foi et votre ferveur. Il vous sera fait selon votre foi. Point. Après, la foi peut nous amener à, je l'espère, à avoir de la ferveur. La foi peut nous amener à avoir envie de jeûner. Est-ce que c'est bien d'avoir envie de jeûner? Mais est-ce qu'il est écrit qu'il vous sera fait selon votre jeûne? Mais il y a des chrétiens qui en sont là. Je jeûne, monsieur Gault, et Dieu va m'exaucer. Je dis, mais Dieu n'est pas obligé de vous exaucer parce que vous jeûnez. Dieu vous exaucera par grâce. Par contre, si vous avez à cœur de jeûner, ben jeûnez. Voilà pourquoi des chrétiens ont perdu la foi, parce qu'on leur a dit, mais si tu jeûnes, Dieu va te délivrer. Moi, j'ai obtenu des guérisons par le jeûne. Mais il y a des guérisons que Dieu ne m'a pas données. J'ai eu besoin de passer par l'opération, parce que j'ai témoigné au chirurgien. Mercredi, je dois manger avec un docteur, avec un kinésithérapeute, parce qu'on a gardé le contact, et je crois que c'était la volonté de Dieu. Dieu est souverain, il sait ce qu'il doit faire. Par contre, il ne faut pas devenir fataliste. Ah, oh, mais Dieu est souverain, comme certains disent, Inch'Allah, voilà. Mais il y en a qui le disent, il y a des chrétiens qui le disent ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas bien. Un chrétien, il n'est pas fataliste. Un chrétien, il a une foi vivante, et il croit ce que Dieu dit. Mais il ne vous sera pas fait selon votre foi, et selon vos émotions, et selon votre ferveur, il vous sera fait selon votre foi. Que son nom soit béni. Que c'est dommage de ne pas lire la Bible et de ne pas comprendre ces choses. Vous n'avez pas à avoir peur du lendemain. Vous n'avez pas à avoir peur des sorciers. Vous n'avez pas à avoir peur de ceci ou de cela. Mardi, Jérémie nous a rappelé quand Dieu a voulu montrer à Élie qu'il déchirait les montagnes, il brisait les rochers. La puissance, elle n'était pas Jézabel. Dieu a voulu montrer à Élie que la puissance, c'est lui qui la détient. Et c'est lui qui détient votre vie. Faites-lui confiance. Rendez-vous compte, rendons-nous compte que lorsque nous doutons, nous remettons en question la fidélité de Dieu. Parce que nos sentiments ont pris le dessus, nous nous autorisons à remettre en question la fidélité de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, si nos amis agissaient de la même manière, combien nous serions blessés? Moi, combien je serais blessé si ma femme doutait de moi? Combien ça me blesserait? Et nous avons confiance l'un dans l'autre. Et je crois qu'on a confiance en ses amis. Et vous avez des amis en qui vous pouvez compter? C'est une bénédiction. Alors, pour les amis, on ne se permettrait pas de le faire et on s'autorise à le faire avec Dieu. Car croyez-moi, s'il y a bien une chose qui empêche Dieu d'agir, c'est ce doute qui se transforme en incrédulité. Sur la terre, Jésus n'a jamais été empêché de guérir, de bénir, de délivrer. Il n'y a aucune forme de péché qui a empêché Jésus de bénir. La seule fois où il a été empêché d'agir, c'est dans son propre village, là où il aurait aimé, franchement, certainement, faire beaucoup de miracles. Il est dit qu'il ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et la seule forme de péché qui a empêché Jésus d'agir, c'est cette incrédulité qui commence par le doute. Et celui qui doute, je le répète, qu'il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Le doute, ça doit être traité comme le vol. Je ne sais pas, peut-être qu'avant, il y avait des voleurs parmi nous, des menteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a renoncé à voler. Oui ou non? C'est pas vrai? On a renoncé. Moi, c'était un de mes problèmes. Franchement, je volais. Et bien, quand je me suis converti, j'ai arrêté de voler. Vous pouvez laisser un trombone là, il ne disparaîtra pas. Moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce que j'ai renoncé à voler. J'ai renoncé à mentir. La Bible le dit. Renoncer, c'est, C'est pas difficile. C'est écrit. Renoncez à ceci, renoncez à cela, renoncez à la grossièreté. Voilà. Il y a des choses, on y renonce. La grossièreté, tiens, vous n'entendez pas parfois des grossièretés? Est-ce que vous participez à ces grossièretés ou est-ce que vous imposez d'y renoncer? Vous renoncez à ces impuretés, à ces grossièretés. Eh bien, c'est pareil avec le doute. Il faut y renoncer. Dieu l'a dit, je le crois. Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime. Voilà. Je ne suis pas parfait, j'ai des progrès à faire, mais je sais que Dieu m'aime. Et si nous ne nous appliquons pas, si nous ne nous appliquons pas à dire non, je ne doute pas, non seulement le témoignage sera déplorable, mais nous nous imposerons beaucoup de souffrances. Alors, mes frères et sœurs, lisez la parole de Dieu, méditez-la. C'est écrit « Heureux l'homme qui médite ». Mais je comprends. Mais je comprends pourquoi il est dit « Heureux l'homme qui médite ». Parce que, quand nous méditons, nous pouvons mémoriser des textes, comme le verset que je citais tout à l'heure, « La malédiction sans cause n'a pas d'effet ». Peut-être que ce jour-là, si je n'avais pas lu la Bible, je l'ai lu un jour avant, ou deux, ou le jour même, je ne sais rien. Mais il était dans mon esprit, en tous les cas. Et si je ne l'avais pas lu, peut-être que pendant quelques jours, j'aurais été perturbé. Parce que cette femme m'avait dit, « Monsieur Gault, ce sorcier, mon père, il a dit que vous alliez mourir, parce qu'il veut vous tuer. » Je pense que pendant quelques jours, ça m'aurait perturbé. Mais un jour, deux jours avant, j'avais été fortifié parce que j'avais réalisé que la malédiction n'atteint pas un chrétien qui vit dans l'obéissance. Et ça, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Que de temps perdu, que de temps perdu, que de temps perdu, que de souffrance, que de malaise nous nous sommes imposés tout simplement parce que nous avons été agités comme les flots de la mer, perturbés, et un jour ça va, et un jour ça va pas, et parce qu'il y a ceci, et parce qu'il y a cela. Bien sûr qu'on est, on prend des coups quand on apprend une mauvaise nouvelle pendant quelques heures, pendant quelques jours, mais ça ne doit pas durer des mois, ça ne doit pas durer des années. Le deuil. Est-ce que c'est normal pendant un mois, deux mois, trois mois d'être sous le coup quand on a été endeuillé? Est-ce que c'est normal au bout de 3-4 ans que quelqu'un soit encore dans le deuil? Moi, je crois que non. Bien sûr qu'on ait des pensées, c'est normal. Mais je crois que Dieu peut changer le deuil en allégresse. Je crois que Dieu peut mettre une huile de joie là où il y a le deuil. Ainsi de suite, mes frères et sœurs. Alors, vivez dans la victoire. Choisissez la victoire. Renoncez à douter comme on renonce à voler. Vous avez vu toutes les fois dans les psaumes où il dit « Je me confierai en toi ». Est-ce que ce matin vous pouvez dire « Mais oui, Seigneur, c'est une chose que je ferai, je me confierai en toi ». La foi mène à la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si vous voulez vivre dans la victoire et si vous voulez continuer à douter, il vous faut choisir. Parce que c'est incompatible, c'est impossible. C'est comme si vous cherchiez à aller au Capitole en faisant deux pas en avant et trois pas en arrière. C'est impossible. Vous ne pouvez pas aller au Capitole en faisant de cette sorte. Vous irez au Capitole en avançant et pas en faisant des pas en arrière, plus que deux pas en avant. La victoire. Alors, on pourrait prendre des textes pour étayer tout ce que je viens de vous dire. Prenez continuellement le bouclier de la foi. Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est écrit ou c'est pas écrit ça? Hein? Pourquoi il nous est demandé de fixer les yeux sur le Seigneur? Mais parce que quand on a les yeux fixés sur le Seigneur, eh bien, on n'a pas les yeux fixés sur soi ou sur les problèmes. Vous regardez les informations, vous avez vu ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Franchement, ça fait pitié. C'est grave ce qui se passe. C'est vraiment grave. Parce que les députés ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train d'enseigner partout. Vous voyez, quand un parle et que les autres, démission. Mais dans les classes, c'est ce qui se passera. Quand un prof va dire une bêtise, les enfants, ils vont faire pareil. Ils vont mettre la dépe. Vous vous rendez compte? Enfin, je veux pas anticiper. Mais c'est ce qui va arriver. Et si vous fixez les yeux sur ces choses, il y a de quoi s'affoler. Mais Dieu nous dit que quand les fondements seront renversés, le juste, c'est qui? C'est pas le chrétien. Le juste, c'est celui qui fait ce que Dieu demande. Le juste, qu'est-ce qu'il fait quand il voit tout? Vous lirez le psaume 11, le psaume 46. Vous lirez ces psaumes, je les lisais hier soir. Et le juste, il est dit, les hommes droits contemplent sa face. Tout va mal et tout ira de plus en plus mal. Les fondements sont renversés, même si l'univers entier explosait, comme c'est écrit un peu dans Ésaïe, dans le psaume 46. Eh bien, nous sommes confiants parce que nous avons choisi de ne pas douter. Alors mes frères et sœurs, restons dans le repos. Rappelez-vous ce verset, soyez fermes, inébranlables. Comment eh bien, ce que Dieu dit, je le crois. Ce que Dieu dit, je le fais. Ce que Dieu demande, eh bien, j'obéis. Et vous verrez combien votre foi va être vivante. Et surtout, combien notre témoignage sera utile. C'est important pour vous que vous rendiez un bon témoignage ? Est-ce que vous voulez, dans votre foyer déjà, pensez aux gens avec qui vous êtes. Le témoignage, demandez aux gens avec qui vous êtes. Demandez-leur. Je vous l'ai déjà dit ça. Mais demandez aux gens avec qui vous êtes. Quel témoignage je rends ? Et bien sûr, il faut être honnête. Il faut accepter la baffe, tant pis. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Quel est le témoignage que je rends dans mon foyer ? On va terminer en chantant ce chœur. Ce vieux cantique, je l'ai préparé aussi. Par la foi, je marcherai.